enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Question ce soir. Qui d'entre vous n'a jamais été tenté en quoi que ce soit? Qui n'a jamais été tenté qu'il lève sa main très haut, que je rencontre cet extraterrestre? Donc ce message s'adresse à vous. Lisons ensemble. En revenant du Jourdain, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit par lui à travers le désert pour être mis à l'épreuve par le diable durant 40 jours. J'ai la version Parole vivante. Pendant tout ce temps, il n'avait rien à manger. Aussi fut-il très affamé à la fin de cette période. Alors le diable l'abroda en ces termes. Si vraiment t'es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres-là de se changer en miche de pain. Et Jésus répondit, il est écrit. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Après cela, le diable l'entraîna sur une haute montagne. Il lui montra en un clin d'œil tous les royaumes de la terre et lui dit, c'est à toi que je donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et m'appartient. Aussi, j'en dispose à mon gré et je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela t'appartiendra. Jésus lui répondit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au bord de la terrasse du temple et lui dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, jette-toi dans le vide. Et le diable devient raffiné là, car il va citer les Écritures en disant, car l'Écriture déclare, Dieu chargera ses anges de veiller sur toi. Ou encore, ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne cogne pas à aucune pierre. Oui, répliqua Jésus, mais il est aussi écrit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, ou encore, tu ne le provoqueras pas. Lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de lui et le laissa tranquille, en attendant une occasion plus favorable pour revenir à la charge. Le verset suivant, on le lit encore. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, où sa réputation commença à se répandre. Dans tout le pays, on se mit à parler de lui. Je voudrais faire en introduction une remarque préalable. Quoique fils de Dieu, il a été lui aussi tenté. Quoique fils de Dieu, Jésus a été tenté et il le savait qu'il allait être tenté en allant sortir du Jourdain. Il savait qu'il allait y avoir une période de tentation. Seconde remarque, être tenté ne veut pas dire qu'on a péché. Je répète ça. Être tenté ne veut pas dire qu'on a péché. Le péché, ce n'est pas être tenté. Le péché, c'est de céder à la tentation. C'est une fois que je suis tenté, de me laisser aller à la tentation. Alors ce soir, simplement deux questions. La première, comment vais-je faire? Quelle stratégie appliquer pour les surmonter? Et deuxièmement, comment vivre une vie victorieuse. Alors tout d'abord, comment faire pour surmonter la tentation? Une des premières choses à faire peut-être, c'est de savoir s'y attendre. De savoir s'y attendre. Parfois nous pensons assez, je dirais naïvement, nous pensons qu'une fois qu'on est chrétien, eh bien ce bas monde, ces choses de bas étage, ne nous toucheront plus jamais. Faux. Jésus, quoique fils de Dieu, a été lui aussi tenté et nous serons à notre tour aussi tentés. Peut-être que le mot tenter n'est pas tout à fait le bon mot. Un mot plus moderne, plus récent serait le mot tester. Vous savez que les voitures subissent des crash tests. On teste leur résistance à des chocs. Et une fois qu'on en a crashé quelques-unes et qu'on se rend compte que réellement elles résistent à différentes puissances de choc, eh bien, on met les voitures en fabrication parce qu'on sait qu'elles produisent un minimum de sécurité pour celui qui roule et ses passagers. Nous serons tentés. Et quand on sait qu'on va être tenté, on peut s'y préparer. Quand vous savez qu'à la fin de l'année scolaire, vous allez passer un examen quelconque, qu'est-ce que vous faites? Vous le savez et vous vous y préparez. Et comme un homme averti en vaut deux, vous êtes beaucoup plus fort lorsque vous êtes préparé. Et la tentation commence toujours au niveau des pensées. Comment, à votre avis, le diable est-il venu? Était-ce une apparition? Tout à coup, voilà, le diable était là. Moi, je ne pense pas. Mais je pense que le diable est venu chez le Seigneur comme il vient souvent chez nous, pratiquement toujours comme ça chez nous. Il vient par des pensées. Tout à coup, une chose qui m'intéresse commence à m'obséder là-dedans. Et je veux la posséder. Voilà, j'ai un jour de jeûne qui est décidé et proclamé. Et justement, ce jour-là, à 11h30, je pense à un poulet frites salade. Comme par hasard. Et comme j'ai décidé de ne pas manger aujourd'hui, ce jour-là, ce poulet frites salade, il prend des dimensions énormes. On le voit savoureux, on le voit croustillant. On voit les frites dans le ketchup et la salade mayonnaise. Oh, c'est formidable. Finalement, ça reste un pauvre poulet frites salade. Hein? Non mais, n'est-ce pas? Quand on est en manque, alors là, frère, je suis seul. Tellement seul, je désire une âme sœur. Le temps passe, et plus on est seul, plus on désire, et ça s'amplifie. Je sais, je vais y revenir après. Savoir s'y attendre, ça commence là-dedans. Et la chute n'est que la manifestation visible de la bataille perdue au niveau de la volonté. Et c'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Première stratégie, s'attendre à être tenté et s'y préparer. Je dirai après comment. Deuxième point. Je serai court ce soir, je vous rassure. Suivez-moi, restez avec moi. Deuxième point, savoir les flairer. Avec le temps, et Paul le dit autrement, il dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Au bout d'un moment, quand on est chrétien, on se rend compte que le diable utilise régulièrement les mêmes stratégies. Constamment. Il faut savoir les flairer. Tout à coup, Jésus a jeûné pendant 40 jours, et tout à coup, il l'a senti là. Voilà, il est là. J'aimerais vous dire ce soir, le diable n'a pas changé de méthode. Voyez-vous, il est venu au bout des 40 jours. Il n'est pas venu au bout de 10 jours, il est venu au bout de 40 jours. Et il est marqué, Jésus avait très faim. Et Jésus pouvait faire tout ce qu'il voulait. Un claquement de doigts, une imposition des mains et le lépreux était guéri. Une parole et la tempête était apaisée. Un simple ordre à des serviteurs et l'eau était changée en vin. Il suffisait d'un claquement de doigts pour que ces pierres deviennent effectivement du pain. Mais c'était prendre quoi? C'était prendre quelque chose de légitime, de manière illégitime, parce qu'il n'avait pas encore reçu la liberté intérieure de rompre son jeûne. Et le diable fera pareillement avec nous. C'est pourquoi identifiez où sont vos zones de fragilité. Quels sont vos moments de fragilité? Quels sont vos temps dans l'année de fragilité? Généralement, pour nous pasteurs, chaque été, nous avons des loft stories. Chaque été, il y a des histoires d'alcôve qui montent à la surface généralement début septembre. Et début septembre, nous avons dans le bureau des Kleenex pour essuyer les larmes des cœurs brisés, hommes ou femmes. Alors, peut-être, Faut-il en citer quelques-unes ce soir? J'en prends quelques-unes. Voyez-vous, eh bien, il y a des pentes glissantes dans nos cœurs que nous devons identifier. Pour Samson, le brave Samson, on peut lui tomber dessus à lui, mais je pense que Samson souffrait réellement de solitude. Et à chaque fois qu'il souffrait de trop, qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait à côté. Et il n'a jamais traité son problème de solitude à fond. Et du coup, à chaque fois qu'il ne savait plus comment gérer, il partait avec une fille. Pour d'autres, ce n'est pas forcément la solitude, mais c'est peut-être le fond de cale. Et Jérémie, le prophète, à chaque fois qu'il ça n'allait pas, il plongeait dans la dépression. Il se laissait aller à sa dépression. Pour d'autres, c'est le sommet. Soyez certains que ce n'est pas toujours facile de vivre des galères, mais j'aimerais vous dire qu'on est autant en danger quand on est dans les temps de réussite et de sommet et de gloire. David en a fait les frais. David a été un homme de Dieu remarquable. David a été oint par le Seigneur. Et quand David avait, au bout de X années, réussi à atteindre le pouvoir royal et à rassembler eh bien, les deux tribus, voilà que là, au sommet, c'est là qu'il s'est laissé aller. Et il l'a payé cher. Oui, David a été un homme, a été l'homme selon le cœur de Dieu, juste. Oui, David a été le roi d'Israël, juste encore. Oui, David a été réhabilité. Oui, David a retrouvé son faste. Oui, David a été gardé par le Seigneur. Mais cependant, si vous lisez bien les textes, Nathan va lui dire, « Ok, Dieu te pardonne, mais de ta famille, de ton sein va sortir un feu. » Et pendant des années, rien ne se passe. 20 ans plus tard, son fils Absalom va se réveiller et se révolter contre lui. Et il a suffi d'une seule fois. Sachez flairer les tentations. Mon frère, peut-être pour toi, c'est quand tu rentres le soir tard, que tout le monde est couché et que tu as le temps d'aller traîner devant le net. J'aimerais te dire, quand tu le sais, fais en sorte que tu ne puisses pas accéder au net à cette heure-là. Peut-être, sœur, tu as tendance, quand ton mari est parti, parce que tu ne vas pas trop bien, peut-être que là, tu as tendance à aller pianoter sur le net pour des rencontres interdites. Et je le dis très sciemment, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire des hommes seulement, c'est l'affaire des femmes également. Vous n'avez pas idée combien de femmes cherchent aventure sur le net. Bien-aimé, pour d'autres, ça peut être la bouteille. C'est leur trait de faiblesse. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, identifie quand ça vient. Sache identifier où ça vient et sache te dire, je développe mon flair spirituel afin de pouvoir résister au temps mauvais. Amen. Pour Judas, c'était l'argent. Et pour tant d'autres des disciples, la première heure, c'était le pouvoir. C'était finalement jeter les Romains dehors et d'être à côté de Jésus, à côté d'un leader politique. Tous ces gens-là avaient intérieurement des tentations diverses à régler. Et ils n'avaient jamais flairé ce qui faisait leur lieu de chute. 1. Savoir s'y attendre. 2. Savoir les flairer. 3. Savoir les rejeter. Savoir les rejeter. Voyez-vous, ce qui me plaît chez Jésus, à l'inverse d'Ève et d'Adam, notamment d'Ève, c'est que Jésus n'a pas discuté avec le diable. Jésus n'a pas discuté ni contesté. Il a juste chaque fois fermé le portillon. Il est écrit. Oui, je pourrais effectivement sauter du palais, sauter la terrasse du temple, dans le vide, et certainement Dieu s'est engagé, c'est vrai, à m'envoyer des anges pour me sauver. Mais il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur. Il est écrit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Jésus s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à sa volonté. Deuxièmement, il a résisté au diable. Comment ? Par la vérité. Il a chaque fois annoncé la vérité. Et le diable veut toujours inverser les choses. Il va te dire, résiste à Dieu et soumets-toi à moi. C'est ce qu'il a dit à Ève en substance, de manière très fine. Et elle a craqué. Elle a résisté à Dieu, elle s'est soumise au diable. Et nous en payons tous aujourd'hui, quelque part, les conséquences. Tu me dis, frère, sœur, mais frère, mon frère, pasteur, moi, tu savais ce que moi je vis. Moi, je n'y arrive pas. Je suis tellement seul. Si tu connaissais ma misère, ce petit coup de blanc, c'est donc pas grave, non ? Vous souriez. J'aimerais vous dire qu'il y en a qui souffrent dans leur sourire. Y compris des femmes. J'aimerais te dire, ne discute pas avec le diable. Ne discute pas avec lui. Mais ce soir, viens au Seigneur. Écoute voir ce qui est promis pour toi. Nous n'avons pas, dit Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi, approchons-nous donc avec confiance du trône où règne la grâce, et nous y obtiendrons là le pardon, et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Amen. Ne discutez pas avec le diable, il est meilleur à ce petit jeu-là pour la bonne et simple raison que ça fait des milliers d'années qu'il le pratique. Amen. Deuxièmement, comment vivre victorieusement ? Revenons à Jésus. Comment est-ce que le Christ a vaincu le diable en tant qu'homme ? Voyez-vous, ici, il n'a pas usé de ses prérogatives divines. Il est resté pleinement homme, humain, comme toi et comme moi. Et quand j'ai jeûné 5-6 jours, une semaine, je vous assure qu'une bonne pizza, ça fait du bien par là où ça passe. Maintenant, j'imagine 40 jours. Et il est marqué qu'il était très affamé, qu'il avait très faim. Eh bien, peut-être une première pensée que je voudrais vous laisser ce soir, c'est que Jésus, la pensée de Jésus était immergée dans la parole de Dieu. Voyez-vous, ce qui est étonnant ici, c'est que Jésus n'a pas eu besoin d'une concordance biblique, d'une Thomson, pour trouver le verset qui disait ce qu'il avait à dire. Mais la parole de Dieu était profondément inscrite dans le cœur de Jésus. Il la connaissait par cœur. Et je voudrais là ce soir honorer tout le travail qui est fait et par les parents et par les moniteurs et les animateurs des écoles du dimanche et des colos quand ils s'efforcent à inculquer, je dis bien le mot inculquer, à instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Oui, apprenez-leur dans le bas âge, comme ça a été fait dans la pensée de Jésus à l'époque où il vivait, où les jeunes juifs étaient éduqués dans la parole de Dieu. Et c'était la parole de Dieu inscrite dans leur cœur qui donnait à Jésus la capacité à l'âge adulte de résister au diable et de le faire fuir loin de lui. Amen. J'ai découvert récemment, j'avais beaucoup de mal à lire ma Bible pendant longtemps. Mais depuis 2 ans, je crois, ou 3 ans, j'ai une Bible qui s'appelle la Bible en un an. Elle est découpée de telle sorte que vous avez tous les jours un texte de l'Ancien et du Nouveau Testament, un psaume et 2 versets des Proverbes. Et vous savez quoi ? J'ai découvert des textes fantastiques que je n'avais jamais lus auparavant. Pour la bonne et simple raison que ces textes-là sont construits de telle sorte qu'on passe à travers toute la Bible. Moi qui avais une sainte horreur des prophètes, Ézéchiel c'était le pire, Ézéchiel et ses visions fantasmagoriques, j'y comprenais rien. Mais là, à force de le lire et de relire et de replonger dedans, tout à coup, tout doucement, les choses s'éveillent dans mon esprit. Et je vous encourage, et je vous encourage tous et toutes individuellement à foncer à la fin de ce culte à la librairie et à la dévaliser de toutes les Bibles qu'elle a pour la manger à la maison. Mangez la parole de Dieu. Ce n'est pas une pratique évangélique. C'est pour votre bien qu'on parle. Il y a là-bas un de ces restaurants fantastiques. Toutes les langues disponibles. Toutes les versions disponibles. Grand, petit, taille, livre de poche, comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que vous mettiez le nez dedans et que vous commenciez à la lire et à vous immerger dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, un jour, j'ai eu ma femme une discussion assez vive à ce sujet-là. Et à la fin, je lui ai dit, maintenant, s'arrête de parler. Je lui ai dit, ma chérie, il y a des choses que nous faisons ensemble, mais il y a des choses que tu ne peux faire que tout seul. Il faut que tu dormes pour toi-même. Et il faut que tu manges pour toi-même. J'ai beau manger à ta place, ça ne te servirait pas à grand-chose. Il faut que tu manges toi-même. Alors voilà la parole de Dieu, mange-la toi-même. Amen. Mange-la toi-même. Je vais vous dire, jamais dans l'histoire de l'humanité, enfin de l'Occident, jamais il y a eu un niveau d'instruction comme aujourd'hui. Du temps de Jésus, très peu d'enfants, pas chez les Juifs, mais en dehors du peuple juif, très peu d'enfants avaient accès à la lecture. Même en France, la lecture, l'école publique, n'est pas si loin que ça. Son obligation n'est pas si loin que ça. Fin du 19e siècle. Aujourd'hui, tous les petits Français, on les oblige à passer à l'école pour qu'ils apprennent à lire. Bien-aimés, il y a des endroits dans le monde où on apprend actuellement, où des philologues cherchent à connaître, à décoder le langage et à créer un alphabet pour cette langue. Et il faut que tout le monde aille apprendre à lire, même adultes. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, nous avons tous accès à la lecture et tous accès à la Bible librement. Il y a des hommes et des femmes qui ont payé cher de leur vie pour la bonne et simple raison qu'ils ont voulu traduire la Bible dans un français courant, dans un allemand courant, dans un anglais courant. William Tyndale, un anglais, il a tout fait pour pouvoir traduire la Bible. Quand il l'avait traduite et imprimée, voilà que des religieux anglais sont venus par ruse lui acheter la cargaison de livres. Et ça a été plongé, ça a été mis dans la Manche. Et avec l'argent qu'il a récupéré, parce que le rusé était, je dis que celui qui était, l'émissaire qui était envoyé était un double, menait un double jeu. Il a fait payer les religieux anglais, et la Bible a été coulée. Mais avec l'argent, Tyndale a dit, de toute façon, la version que j'avais faite là n'était pas assez bonne, je vais en refaire une autre. Il s'en est repayé une autre. Et bien aimé, quelques temps plus tard, quand il avait réédité sa Bible, il est mort sur un bûcher. Il est mort sur un bûcher. Et je pourrais rallonger la liste, le temps me manque ce soir, des hommes et des femmes qui ont laissé leur vie pour la Bible. Et nous avons tellement d'accès, et nous y prenons tellement de considération. Tellement peu de considération. Je vous encourage. Jésus a pu résister au diable parce que sa pensée était plongée dans la parole de Dieu. Amen. Deuxième méthode. Elle est très simple. Jésus venait de prier et de jeûner pendant 40 jours. C'est une des raisons pour lesquelles il a pu résister. J'aimerais vous dire ce soir, développer une vie de prière habituelle. Développer une habitude de vie de prière. Encore une des choses que je ne pourrais pas faire à votre place. Oui, on peut prier pour vous, c'est vrai. Mais c'est tellement mieux quand vous priez pour vous-même. Voyez-vous, j'ai une comparaison. Entre la terre et la lune, il y a une différence. C'est quand la terre, elle a autour d'elle une atmosphère. Une espèce de ruban, une épaisseur qui est autour de la terre, qui s'appelle l'atmosphère. Et la lune n'en a pas. Ce qui fait que lorsque des météorites traversent l'espace intersidéral et veulent heurter la Terre, lorsqu'ils s'approchent de la Terre, ces météorites, ces cailloux vont se frotter à l'air de l'atmosphère et se désagréger en sorte que cela nous protège. La Lune, elle, n'a pas d'atmosphère. Et de ce fait, Quand un météorite arrive de l'espace, il va percuter le sol lunaire et faire d'énormes cratères que vous pouvez observer à l'œil nu en jour de pleine lune. D'accord. Lorsque vous vous mettez à prier vous-même, vous créez en fait une espèce d'atmosphère spirituelle autour de votre vie. Et de ce fait, lorsque des flèches aiguës partent de certaines bouches avec des mots terribles qui pourraient vous casser ou mettre un morceau, eh bien, elles sont désagrégées par la présence enveloppante de l'Esprit-Saint autour de vous. Amen. Et tout à coup, les mêmes mots ont moins d'impact. Oui, ils ont encore de l'impact, mais moins d'impact. Parce qu'on est protégé. Mais c'est à vous qu'incombe le travail, de développer une vie de prière habituelle. Amen. Vous allez me dire, pasteur, votre message n'est pas très original, hein. C'est prier et lire la Bible. C'est pas très original, mais c'est efficace. Amen. Un troisième et dernier point, et j'arrive à la conclusion. Immerger sa pensée dans la parole de Dieu, développer une vie de prière habituelle, troisièmement, couper les ponts. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Couper les ponts. Dans Acte 19, verset 18, on est à la conversion des premiers Éphésiens. Et voilà ce qui est marqué. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ils avaient fait de l'occultisme, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Autrement dit, ces gens-là qui avaient trempé dans l'occultisme, en brûlant ces livres, ils ont brûlé les ponts qui les reliaient à leur passé. Mon frère, ma sœur, as-tu eu affaire à de la pornographie? J'aimerais te dire, coupe! On a beau prier tous les mardis soirs pour toi. Si tu ne coupes pas à un moment donné le pont, ce pont-là sera pour le diable une porte d'accès à ton cœur. On peut dire amen à cela? Mon frère, ma sœur, si certaines personnes t'entendent à la médisance, t'entendent à dire des choses méchantes, pas seulement sur les pasteurs, mais sur un tas de monde en dehors, j'aime te dire, eh bien, distends la relation. Écarte-toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, on veut prier pour. Il n'y a pas à prier pour. Il y a à faire un choix. Je ne suis pas un fou non plus. Je n'ai pas dit qu'il faut brûler la maison, la voiture et le bijou, ce que vous voulez. Je n'ai pas dit ça. C'est l'autre extrême alors qu'il faut éviter. Mais cependant, il y a des choses avec lesquelles il faut couper. Si la musique, si une certaine interdit de musique t'a entraîné à fumer des joints et des pétards, j'aimerais te dire, coupe la musique. Jésus a dit, si ta main, ta droite, t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu rentres borgne dans le royaume des cieux qu'avec les deux yeux en enfer. Il vaut mieux entrer avec manchot au royaume des cieux qu'avec les deux bras en enfer. Je n'ai pas dit maintenant d'aller prendre une hache et couper les mains. C'est symbolique, évidemment. À un moment donné, la télévision chez moi prenait trop de temps. Et un jour, je dis à ma femme, maintenant on la sort. Depuis je l'ai remise, mais j'ai sorti un bout de temps. Je dis maintenant, c'est pas elle qui me contrôle, c'est moi qui vais la contrôler. Il y en a ras-le-bol. Il y a une forme de radicalité que Jésus propose, mais qui est salutaire pour nos vies. Elle est bonne pour nos vies. C'est fou le temps que j'ai trouvé après pour causer à ma femme. Ah, c'est incroyable le temps que j'avais. couper les ponts, supprimer certains magazines. S'il le faut, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, si vraiment Internet entraîne au péché, et j'aimerais vous dire que c'est devenu une plaie, eh bien, mon ami, tu vas voir ton fournisseur d'accès et tu dis, je résilie. Alléluia. Personne ne sourit plus. Oui, mais j'ai besoin d'emails. Eh bien, va chercher des emails par ailleurs. Mais toi, mets-toi des barrières de sécurité. Voyez-vous, sur la route, on a mis des lignes blanches. Parce qu'on sait que ce tronçon-là est dangereux. Et si on permet à quelqu'un de dépasser, il risque d'y avoir des morts. Et aucun de nous ne s'amuserait à le faire pour la bonne et simple raison que le risque est trop élevé. Il en va de même dans la vie de tous les jours, dans nos relations, dans nos comportements. Savoir couper les ponts sainement, soyez sans ménagement avec vous-même. Car si vous laissez au diable le petit doigt, je vous assure qu'il vous mangera le bras. Et je ne suis pas dur en disant ça. Je ne suis pas dur en disant ça. Quand le médecin dit, monsieur, madame, votre pied est gangréné, il faut couper. Si vous ne coupez pas dans l'heure qui vient, c'est ce qui se passe ? Ça monte plus haut. Et plus haut, et finalement mon cœur, et c'est foutu. Vous êtes mort. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Et je vous encourage à ce soir à entendre ce que je dis. Avant peut-être que demain, après-demain, ou dans quelque temps, vous soyez emporté par une tentation donnée. Vous savez, on joue avec le feu et on grimpe sur le toboggan pour pouvoir avoir un peu le sens du vertige de l'altitude. On s'assied même dessus. Et tout à coup, il suffit d'une simple petite tape dans le dos et vous ne retenez plus rien, vous descendez la pente. Amen. Alors ce soir, la bonne nouvelle, je vais la conclure maintenant. Il reste 2 minutes 30. Vous êtes avec moi ? La bonne nouvelle, c'est que nous serons tous tentés un jour ou l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un moyen d'en sortir. Amen ? Il y a toujours un moyen d'en sortir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Écoutez bien ce qu'il est marqué là. 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement à tous les hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Amen. Il y a toujours un moyen d'en sortir. Dis voir à ton voisin, il y a toujours moyen d'en sortir. Dis-le lui. Il y a toujours un moyen d'en sortir. Alors ne te laisse pas aller. Une bataille se livre dans ta tête. Mais c'est là aussi qu'elle se gagne ou se perd. Et ce n'est pas un jeu. Jésus a montré comment il fallait faire. D'abord s'y attendre. Les flairer, les rejeter, en immergeant sa pensée dans la parole de Dieu, en développant l'habitude de la prière et en coupant les ponts. Et il n'y a pas d'autre alternative. Deuxièmement, je conclue aussi en disant, non seulement il y a toujours un moyen d'en sortir, mais ça vaut toujours la peine de résister à la tentation. Ça vaut toujours la peine. Parce que derrière, ce qui vient est tellement meilleur. C'est tellement meilleur. Luc 4, verset 1 dit que Jésus était rempli de l'Esprit, il revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais le dernier verset que nous avons lu, il est marqué que Jésus était revêtu de puissance. Pas seulement rempli de l'Esprit, mais revêtu de puissance. Et sa renommée se répandit tout autour dans le pays. Pourquoi ? Parce que voyez-vous, il n'était pas seulement rempli de l'Esprit. Il ne faisait pas que prier en de nouvelles langues. Mais Dieu lui a fait subir le crash test. et il l'avait supporté. Et cet homme, Jésus, était éprouvé, testé. Il s'est avéré être fiable, fidèle. Et maintenant, Dieu pouvait charger Jésus d'une onction de puissance. Et celle-là, eh bien, vous savez quand ? Quand on marche dans l'intégrité. Le fait que vous priez en langue n'impressionne pas le diable. Mais si vous priez en langue et qu'en plus vous marchez de manière intègre, alors là, il vous craint. Là, vous devenez une menace pour lui. Parce que vous développez une puissance spirituelle. Amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de résister à la tentation. Jacques 1, verset 12 dit « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, vous allez devoir prouver votre fermeté. Ouais, mais je flanche si vite. C'est pas grave, Jésus est là à côté de toi, il veut t'aider à devenir fort. Après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de vie, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » J'aimerais terminer par là ce soir. Écoutez-moi cette phrase-là, je m'arrête là. Dans nos vies, les changements sont inévitables. Il y a 2 ans que j'ai commencé à porter des lunettes. Tout à coup, au bout de quelques années, mes cheveux ont commencé à grisonner. Inévitablement, n'est-ce pas ? Les changements sont inévitables, mais les progrès sont une option. Je répète ça. Les changements sont inévitables, mais le progrès, c'est une option parce que c'est un choix que j'ai à faire tous les jours. Tous les jours à nouveau. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens il y a 25 ans, ils sont restés des bébés spirituels. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais choisi de grandir. Ils n'ont jamais dit « Maintenant, je vais prouver que je suis capable d'être solide par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi. » J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma sœur, choisis. Choisis de devenir solide. Choisis de grandir. Choisis de devenir mûr, afin que dans 5 ans, 10 ans, le groupe qui est là ce soir, on ait en face de nous un ensemble de gens mûrs, matures, solides, costauds, des colonnes dans le temple de l'Éternel qui peuvent accueillir le double, le triple, le quadruple de gens nouveau-nés dans la foi. Amen. Amen. Alors peut-être ce soir tu me dis, mais moi frère, moi j'ai déjà franchi la ligne blanche. Alors si tu as chuté ce soir, j'aimerais te dire une autre bonne nouvelle. C'est que le Dieu que nous servons est le Dieu des deuxièmes, même des fois des troisièmes, ou des quatrièmes départs. Ce soir, j'aimerais te dire que si tu es capable de confesser, comme l'ont fait les Éphésiens, de dire, moi frère, j'ai flanché. Moi j'ai vraiment tout raté. Mais je voudrais recommencer. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et ce soir, j'aimerais te dire, avance-toi. Et les frères, ce soir, qui s'avancent, sont sous le secret de la confession. Ils vont recevoir ce qui s'est tramé dans le secret de ta vie, dans les ténèbres de ta vie. Et si tu amènes ça à la lumière, la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es là ce soir. Et tu es notre modèle, tu es notre maître. Et tu as été tenté pour nous montrer qu'un jour ou l'autre, nous aussi, nous serons testés, nous serons éprouvés, nous serons tentés. Et que tu comptes sur nous pour que nous réussissions, parce que tu as mis tout en nous pour que nous puissions surmonter la tentation et la vaincre. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, fais de nous des hommes et des femmes forts, capable d'endurer, de supporter patiemment la tentation, mais aussi à la fin de glaner la couronne de la vie éternelle. Je te loue, Seigneur, pour cela et je te rends grâce. Et Père, pour ceux qui ont chuté, permets que ce soir, ils puissent trouver grâce et secours en ce moment précis. Je te le demande, Seigneur. Et pour ceux qui sont dans les batailles, Seigneur, fortifie-les. Rends leur front aussi dur que du diamant, qu'en sortant d'ici, ils se reprennent et disent « Je ne recommencerai pas. Je me débarrasse, je coupe les ponts avec le passé dans le péché. » Seigneur, aide-les. Aide-nous à être animés d'une sainte radicalité, d'une saine et d'une sainte radicalité qui t'honore. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.